Le journal est présenté par Pauline Renoir. Bonjour Pauline.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le bilan s'alourdit en Irak. Vendredi noir, hier à Bagdad et dans le sud du pays, 40 manifestants ont trouvé la mort en voulant défier le régime.
Eux ont pu manifester sans heurts. 1 million de Chiliens ont défilé dans les rues de Santiago hier contre les inégalités. Le président Piñera dit les avoir entendus.
En France, le temps de l'enquête est lent, trop lent. Des élus écologistes demandent des investigations urgentes pour la santé des riverains de l'usine Lubrizol à Rouen.
Ils sont chaque samedi moins nombreux, mais ils occupent le terrain depuis 50 semaines. Les Gilets jaunes, un festival de films s'intéresse aux femmes manifestantes en Corse. C'est le reportage d'Anne Fauquemberg.
Et votre invitée ce matin, Caroline Brouet, nous emmène en Amérique latine.
En Amérique du Sud, effectivement, où au Chili, en Bolivie, en Uruguay, en Équateur, en Argentine, les gens descendent massivement dans la rue. Mais que se passe-t-il donc sur le continent sud-américain? Nous entendrons, nous aurons avec nous notre invité, l'historien Olivier Compagnon, qui est professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
Des manifestations qui se terminent dans un bain de sang en Irak. 40 protestataires ont été tués par balle hier à Bagdad et dans le sud du pays. C'est l'une des journées les plus sanglantes depuis le début de la contestation anti-régime. L'Iran dehors, l'Irak doit rester libre. Voilà ce qu'on pouvait entendre hier à l'encontre du régime iranien, accusé d'ingérence dans les affaires du pays. Lucie Wasserman était sur place à Bagdad.
Le mouvement était attendu depuis 10 jours et il a été largement suivi ce vendredi à Bagdad. Dans les rues de la capitale irakienne, jusque tard dans la soirée, des milliers de manifestants demandaient une nouvelle fois la démission du gouvernement, la chute du régime, disaient-ils. Place Tahrir Square, l'épicentre de la contestation, des heurts ont rapidement éclaté dès la mi-journée à Bagdad. Les forces de sécurité ont lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes en direction des manifestants, pour éviter notamment qu'ils n'atteignent la zone verte située de l'autre côté du Tigre. Ces manifestations spontanées et populaires avaient été largement soutenues au cours des derniers jours par l'influent leader chiite Moqtada Sadr. Ses partisans sont toutefois restés en retrait et n'avaient reçu l'ordre que de protéger les manifestants sans prendre pleinement part au mouvement. À l'instar des précédentes manifestations, la contestation reste donc sans leader politique en Irak et pourrait se poursuivre au cours des prochains jours.
Lucie Wasserman, la correspondante de France Culture à Bagdad. Début octobre, déjà plus de 150 personnes avaient été tuées en une semaine, quasiment toutes des manifestants qui réclamaient la chute du régime. Le bilan est lourd également. En Éthiopie, 67 manifestants sont morts en une semaine dans des heurts entre les forces de l'ordre et les soutiens de l'opposant Jawar Mohamed et plusieurs groupes ethniques. Tous accusent le Premier ministre Abiy Ahmed de se comporter en dictateur. Le ministère de la Défense répond avec un nouveau déploiement de militaires dans les zones les plus violentes. À 12 000 km de là, la rue porte chance cette fois aux manifestants. 1 million de Chiliens ont défilé dans la capitale Santiago hier contre les inégalités, la hausse du coût de la vie. C'est la plus grande mobilisation depuis le début des contestations le 6 octobre avec l'augmentation des prix des titres de transport, des sifflets, des klaxons, des drapeaux pour demander un changement politique. Justine Fontaine à Santiago.
Sur plus de 2 km, les gigantesques avenues qui mènent jusqu'à Plaza Italia dans le centre de Santiago débordent de manifestants. Ces Chiliens, dont beaucoup de jeunes, demandent le départ du gouvernement et des réformes profondes pour mieux redistribuer les richesses du pays. Javiera Herrera est étudiante. Elle manifeste tous les jours depuis une semaine.
Nous ne pouvons pas continuer ainsi à nous endetter pour acheter à manger, pour nous soigner, pour payer nos études. Les gens en ont marre, dit-elle. Depuis le début des manifestations, plus de 500 personnes ont été hospitalisées après avoir été blessées par des armes à feu, des tirs au plomb ou des tirs de flashball. Rodrigo Núñez est infirmier. Il a mis en place depuis une semaine avec d'autres professionnels de santé un centre de premier secours aux abords de la manifestation.
On reçoit surtout des gens qui ont des problèmes respiratoires à cause des gaz lacrymogènes utilisés en grande quantité.
Nous avons aussi reçu beaucoup de gens touchés par des flashballs, des balles en plastique envoyées par air comprimé et qui transpercent la peau. Cela a provoqué des lésions oculaires ou sur d'autres parties du corps, car ces balles sont tirées de manière indiscriminée et à bout portant, explique-t-il. Plusieurs personnes ont aussi dénoncé avoir été victimes de tortures de la part des forces de l'ordre ou d'avoir été arrêtées chez elles par des policiers sans mandat d'arrêt. Une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est attendue dès lundi au Chili pour examiner ces accusations.
Le reportage de Justine Fontaine à Santiago. Bonjour Olivier Compagnon.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Amérique latine. Alors, Sébastien Piñera a dit avoir entendu le message de la rue. C'était une réaction très courte sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'avec ça et la manifestation d'hier, les Chiliens vont enfin faire bouger les lignes?
Il a même demandé pardon de ne pas avoir pris conscience de la situation avant-hier. Et effectivement, le rapport de force est très favorable au mouvement social. Il faut imaginer 1 million de Chiliens dans la rue, c'est 4 millions de Français dans la rue. Donc c'est vraiment très favorable au mouvement social. Et il est certain qu'il va y avoir une réponse de la part du gouvernement. Il y a déjà des annonces qui ont été faites, le gel de la hausse programmée du tarif de l'électricité, l'augmentation d'un certain nombre de minima sociaux. Donc là, on pense effectivement que les choses vont changer très rapidement. Si ce n'est que ce que demandent les Chiliens aujourd'hui, c'est quand même, je crois, la construction d'un État social, à proprement parler, capable de redistribuer les grandes richesses chiliennes durablement. Et là, je ne suis pas entièrement convaincu que le gouvernement Piñera soit formaté idéologiquement pour mettre cela en place. Donc il faudra voir un petit peu l'évolution du rapport de force dans les mois qui viennent.
Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres manifestations ou au contraire, on a un peu pu calmer le jeu avec
C'est toujours difficile de prévoir un petit peu comment vont se passer les choses, mais j'ai quand même l'impression que ça va durer un petit peu.
Merci Olivier Compagnon. On vous retrouve après le journal dans la suite des matins du samedi de France Culture avec Caroline Brouet. J-1 avant l'élection présidentielle en Argentine. Le scrutin doit se tenir demain en pleine crise économique. Les Argentins devront choisir entre tourner la page de l'ère Mauricio Macri, le candidat sortant, et l'opposant de centre-gauche Alberto Fernandez qui s'allie avec l'ex-présidente Cristina Kirchner. C'est pour l'instant le duo péroniste qui est donné favori. On reste en Amérique latine et on part au Brésil. Depuis 2 mois, une marée noire d'origine inconnue pollue les plages du nord-est du Brésil. Selon les spécialistes, il s'agit du plus important désastre écologique sur les côtes brésiliennes avec 2250 km de côtes polluées, soit plus de 200 plages dans 9 états du nord-est du pays. Les Brésiliens attendent des réponses du gouvernement fédéral, Anne Vigna.
C'est sur les réseaux sociaux que les Brésiliens suivent aujourd'hui l'avancée de la marée noire sur les plages du nord-est du pays. Pêcheurs et habitants nettoient comme ils le peuvent des amas noirs de pétrole qu'ils emmènent ensuite dans des décharges. Les vidéos de ces volontaires montrent à la fois la gravité de la pollution et le peu d'aide reçue de la part du gouvernement fédéral, comme le dit Luis, un pêcheur de l'état du Pernambuco.
On a reçu la nouvelle ce matin que le pétrole est arrivé sur notre plage, notre littoral. Et on a mobilisé en moins d'une demi-heure un groupe de 60 personnes qui est ici avec les autorités locales. Mais ce qui m'indigne vraiment, c'est qu'il n'y a personne du gouvernement fédéral. Alors que le nord-est du pays se noie dans le pétrole, notre président est toujours sur Twitter sans rien faire, alors que le nord-est a besoin de l'aide du gouvernement fédéral.
Face au nouveau tollé pour le gouvernement, la marine du Brésil a expliqué ce vendredi en conférence de presse l'origine du pétrole, mais ignore toujours l'entreprise responsable de cette catastrophe.
Ce pétrole est produit au Venezuela et il a été embarqué dans un navire. Ce que la marine cherche à découvrir, c'est l'origine de ce navire.
Comme en Amazonie, en août dernier, le gouvernement brésilien réagit bien trop tard à une catastrophe écologique alors qu'il existait un plan contre les marées noires, mais qui n'a pas été mis en place.
Anne Vigna pour France Culture. Le feu continue de faire des ravages en Californie, dans le sud de l'État. À 50 km de Los Angeles, 50 000 habitants ont déjà été évacués. Au moins 1 600 hectares ont brûlé. Et le vent et la chaleur n'aident pas le travail des pompiers. Un autre incendie n'est toujours pas maîtrisé. Cette fois dans le nord de la Californie, dans la vallée du vin près de San Francisco. 9 000 hectares de végétation et une cinquantaine de bâtiments sont partis en fumée. 8h09 sur France Culture, des récoltes retardées, des plantations de blé repoussées, du lait jeté. Voilà le constat des agriculteurs un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Eh bien aujourd'hui, un fonds de solidarité leur est désormais accordé. Édouard Philippe et les patrons de Lubrizol ont signé une convention d'indemnisation pour 3000 agriculteurs victimes des pollutions. Leur préjudice est estimé à près de 50 millions d'euros. La satisfaction des agriculteurs, mais la colère en revanche des écologistes ce matin. Plusieurs élus réagissent à l'annonce de l'État de mener une enquête de santé. Enquête qui ne démarrait qu'en mars 2020 et seulement sur un échantillon de la population. Une méthode pas sérieuse et tardive pour Cyril Moreau. Il est le vice-président Europe Écologie Les Verts de la métropole de Rouen.
Une enquête en trompe-l'œil, on pourrait dire que c'est du baratin. C'est pas ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'un suivi médical. Parce que quand on écoute précisément ce qu'on nous dit, on nous dit qu'on va pas faire un suivi généralisé, on va faire une enquête par échantillonnage en fonction des zones contaminées éventuellement. Donc c'est absolument pas raisonnable et c'est pas sérieux. C'est une opération d'enfumage, excusez-moi le mauvais jeu de mots. On est en train d'organiser la disparition statistique des problèmes de Lubrizol. On fera une étude sur très peu de gens qui conclura que finalement il n'y a aucun problème. Ce qui permet donc au PDG de Lubrizol, qui sait très bien ce à quoi tout ça va conduire, de dire c'est pas plus grave qu'un incendie de maison. Ben oui, puisque on connaît déjà les conclusions de l'enquête au vu de la façon dont on mène cette enquête. Je vous donne déjà la réponse. Les prélèvements qui vont être faits sur le terrain vont indiquer que pour l'ensemble des polluants, on est en dessous des seuils à risque. Dossier réglé.
Cyril Moreau, vice-président Europe Écologie Les Verts de la métropole de Rouen, il répondait aux questions de Véronique Rebérotte. C'était un rendez-vous très attendu par les salariés de la SNCF. La direction a présenté son rapport sur l'accident du train TER dans les Ardennes le 16 octobre et certifié noir sur blanc, pas besoin d'un contrôleur dans les trains. Précisément, il est écrit que la sécurité est la même avec ou sans contrôleur. 7 heures de réunion pour cela, les syndicats se disent très déçus. 50e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Ils lancent un appel national à manifester à Saint-Étienne à 14h. Également aussi dans le Tarn, en Occitanie, pour marquer le coup 5 ans après la mort de Rémi Fraisse. Les Gilets jaunes devraient être rejoints là-bas par des zadistes. Le jeune homme Rémi Fraisse avait été tué pendant des affrontements avec la gendarmerie sur le chantier du barrage de Sivens. Et puis, rendez-vous aussi en Corse ce week-end pour parler des Gilets jaunes avec un festival de films politiques à Porto Vecchio. Un documentaire sur les femmes Gilets jaunes va être projeté. Son titre, Toutes solidaires. La réalisatrice Anne Gainsburger a suivi un groupe de manifestantes dans l'est de la France.
Ce documentaire met en lumière quatre femmes qui veulent rester debout face à l'adversité, que ce soit la précarité de leur travail ou les accidents de la vie. Elles se sont connues sur un rond-point près de Nancy, comme le raconte dans le film Emilia. Cette coiffeuse s'est mobilisée avec son fils, boulanger au SMIC.
Quand on a vu le nombre de personnes qui étaient là, on s'est dit, mais en fait, on n'est pas tout seul. Il y a plein de gens qui sont là, qui demandent à vivre de leur travail, qui demandent un peu plus de dignité.
Certaines d'entre elles se sont organisées en association. Elles s'appellent désormais les Amas Jaunes, un nom qui dit beaucoup de leur imaginaire d'émancipation. Anne Gainsburger est la réalisatrice.
Moi, ce que je trouve assez touchant et intéressant, c'est cette micro-société de femmes qui est en train de grandir. Voilà, faite de rencontres sur les ronds-points, faite de rencontres dans la lutte et d'une lutte qui s'est affinée.
Cette micro-société à base de nombreux réseaux d'entraide, elle est regardée de près par un collectif de chercheurs du centre Émile Durkheim à Sciences Po Bordeaux. Les premières remontées d'enquête montrent que les Gilets jaunes sont aujourd'hui totalement mixtes et c'est lié à la structure horizontale de ce mouvement, explique Magali Della Souda.
Il va favoriser l'émergence de personnes qui n'ont pas les ressources habituelles et le capital militant habituel qui fait qu'elles sont visibles dans d'autres types de contestations. Et donc les femmes ont une responsabilité qui est beaucoup plus forte que dans d'autres mouvements sociaux.
La chercheuse qui constate également sur son territoire à Bordeaux que ce sont les femmes actuellement qui entretiennent le mouvement tous les samedis.
Le reportage d'Anne Fauquemberg pour France Culture. Les municipales approchent et les états-majors affinent leurs calculs. Une des priorités de La République En Marche, faire barrage au Rassemblement National, quitte à nouer des alliances. C'est la stratégie du Front Républicain, mais cela risque d'être plus difficile pour le scrutin de mars 2020, faute de candidats sortant en mairie pour La République En Marche. Frédéric Dabi est le directeur général adjoint d'Ipsos.
Il y a une mutation de la réussite du Front Républicain. Il a été efficace dans les années 90 et 2000. On a vu que sa performance s'est beaucoup affadie ces dernières années avec un véritable tournant aux élections législatives de 2017. La notion de Front Républicain dans le cadre municipal est encore plus compliquée. Qu'est-ce que vont être en termes d'offres politiques les élections municipales? Elles vont se caractériser par un formidable émiettement du champ électoral. Quand on regarde l'offre actuelle dans les plus grandes villes, dans les villes de plus de 10 000 habitants, très peu d'alliances se font jour. Dans ce cadre-là, se prémunir de victoire du Rassemblement national est l'affaire de tous les partis et sera fonction des configurations locales et de la capacité de se retirer au second tour pour éviter du fait de l'émiettement des victoires du Rassemblement national.
Frédéric Dabi, d'Ipsos au micro de Pierre Neveu. Pas de pluie ce matin, mais du gris de l'est de la Bretagne au pays de la Loire et jusqu'en Lorraine. À midi, les nuages devraient laisser place au soleil.